Les grands titres de ce jeudi 6 juillet. La femme politique française Simone Veil et son époux reposeront au Panthéon. L'Australie pourrait envisager des sanctions économiques contre la Chine si le pays continue son commerce avec la Corée du Nord. Et nouveaux problèmes techniques pour le site du Australian Taxation Office en pleine période d'impôts. Simone Veil et son époux reposeront au Panthéon. C'est ce qu'a annoncé hier le président français Emmanuel Macron lors de l'hommage national à la grande dame politique française aux Invalides. Valérie Gasse de RFI était sur place.
Emmanuel Macron a annoncé à la fin de son éloge que Simone Veil et son époux reposeraient au Panthéon. La famille tenait à ce qu'ils ne soient pas séparés. Cette décision du chef de l'État répond à une demande populaire. Depuis la mort de Simone Veil, une pétition avait été lancée pour demander sa panthéonisation. C'est l'ultime hommage de la nation à cette femme d'exception après la cérémonie qui s'est déroulée aux Invalides en présence de représentants de toute la classe politique française. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Lionel Jospin pour les anciens chefs d'État et de gouvernement. Valérie Giscard d'Estaing qui était annoncée n'est finalement pas venue et c'est Bernadette Chirac qui avec sa fille Claude a représenté son époux. Mais il y avait aussi des centaines d'anonymes qui ont pu assister à l'hommage dans la cour des Invalides autour de la famille de la défunte et du président de la République qui a évoqué la grandeur de Simone Veil, elle qui a connu, a-t-il dit, la noire expérience des camps de la mort. Le chef de l'État a rendu hommage à son insoumission intraitable. Il l'a qualifiée d'éclaireur de la République. Des mots sobres et forts prononcés par Emmanuel Macron avant d'aller se recueillir devant le cercueil posé sur le sol au milieu de la cour des Invalides.
Simon Rosé était lui aussi aux Invalides pour recueillir les impressions de femmes qui ont dit devoir beaucoup à Simone Veil.
C'est une femme que j'admirais énormément. Et je me devais d'être là aujourd'hui. De la reconnaissance, forcément, vis-à-vis en tant que femme. Et puis toute cette vie exceptionnelle.
Elle voilà. Avait toujours la paix intérieure qui lui permettait de chercher la paix à l'extérieur et de se battre pour la paix à l'extérieur.
Eh bien, pour moi, c'est une grande européenne, la femme qui a libéré les femmes en général. Et je suis un peu de cette époque-là, moi. Mmh. Voilà, respect total.
C'est pas parce qu'on n'a pas été contemporain qu'on n'est pas redevable des libertés qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Elle a été vraiment avant-gardiste à l'époque où elle l'a fait, donc on peut en être que reconnaissant, ça c'est sûr.
Moi j'ai beaucoup d'émotions.
Ben, je pense qu'elle a eu l'intelligence de faire passer cette loi au-delà de toutes les prises de position partisanes.
Et ce combat, il est toujours d'actualité?
Oh bah, plus que jamais.
Plus que jamais.
Plus que jamais.
Que ce
de tous
soit,
les jours.
Ouais. Que ce soit pour l'avortement ou pour la tolérance. La tolérance, oui.
On écoutait des témoignages à propos de Simone Veil recueillis par Simon Rosé de RFI. Le vice-premier ministre Barnaby Joyce a confirmé que l'Australie se joindrait aux efforts militaires contre la Corée du Nord si le pays lançait une ogive nucléaire vers les États-Unis. On vous disait mardi dernier que la Corée du Nord avait fait un autre test de missile balistique. Des sanctions de l'ONU sont déjà en place contre la Corée du Nord, mais les États-Unis souhaiteraient aussi des sanctions économiques contre la Chine si le pays continue son commerce avec la Corée du Nord. Une journaliste d'ABC a demandé à Barnaby Joyce si l'Australie supporterait des sanctions contre la Chine. On écoute.
Would Australia support trade sanctions against China over this?
Well, we obviously have sympathy. If you're aiding and abetting a rogue leader who has no doubt, I mean, they're not developing the capacity to deliver a nuclear bomb to Northern Australia and to sections of the United States, especially Alaska, because they're interested in the peace and stability of the region.
C'était Barnaby Joyce. Même si les tensions montent, le chercheur Antoine Bondaz affirme que l'option militaire contre la Corée du Nord est pratiquement impossible.
La question des frappes préventives sur la Corée du Nord, des frappes militaires, s'était déjà posée au printemps de cette année. Malheureusement, Ce scénario est à exclure pour une raison simple, c'est qu'il entraînerait une réponse militaire de la Corée du Nord qui attaquerait très certainement la Corée du Sud. Il faut bien comprendre que Séoul, une mégalopole de près de 20 millions d'habitants, est à moins de 50 km de la frontière et à portée de l'artillerie conventionnelle et chimique de la Corée du Nord. Sur le dossier chinois, la Chine et les États-Unis, en réalité, depuis plus de 15 ans, se renvoient la balle de la responsabilité de la nucléarisation de la Corée du Nord. Si la Chine peut faire davantage pression, peut prendre davantage de sanctions vis-à-vis de son voisin, elle ne franchira jamais une ligne rouge qui est un effondrement du régime nord-coréen, puisque la Corée du Nord, encore une fois, est nécessaire pour garantir la sécurité et la stabilité de la périphérie chinoise. Et les Chinois préfèrent une péninsule coréenne nucléarisée mais stable à une péninsule coréenne dénucléarisée mais instable.
Antoine Bondaz de la Fondation pour la recherche stratégique au micro de RFI. Le vice-premier ministre Barnaby Joyce a dit que le Parti travailliste devrait supporter la mine de charbon Adani s'il voulait aider les travailleurs de l'aciérie Arium en Australie du Sud. On apprenait hier que l'aciérie endettée avait été achetée par une compagnie britannique qui a promis de garder 3000 travailleurs à Whyalla. Barnaby Joyce a dit à ABC que les propriétaires d'Adani ont promis d'acheter 74 millions de dollars d'acier d'Arium si la mine allait de l'avant.
And steel, by the way, needs metallurgical coal, amongst other things. I mean, this is the crazy position of the Labor Party. They say they're the party for laborers, for workers. Yet every time you try to say, well, it's got to go beyond rhetoric. You've actually got to support workers in the jobs that they actually do. And that's, you know, coal miners who mine coal and steel workers who create steel, and both rely on coal, metallurgical coal or thermal coal for the production of power.
On écoutait Barnaby Joyce. Le site web du Australian Tax Office était de nouveau en panne hier soir. Ça arrive au mauvais moment alors que la période des rapports d'impôts vient de commencer. Le commissaire du Australian Tax Office, Chris Jordan, a admis qu'ils devraient améliorer leur système.
I understand only too well we have ground to make up. While we may have had some credits and credibility from the positive changes we have made in the last few years, we've lost a bit of ground with Elbrus and our systems outages.
Le système connaît des problèmes depuis plusieurs mois. Il y a eu des pannes majeures en décembre, en février et la semaine dernière. Selon une nouvelle proposition, la Commission sur le travail équitable voudrait que certains travailleurs occasionnels se voient offrir des postes permanents après 12 mois. Les employés occasionnels qui ont un horaire régulier seraient éligibles pour une position à temps plein ou temps partiel. La secrétaire du Conseil des syndicats, Sally McManus, a dit à ABC que ce serait une excellente nouvelle pour des milliers de travailleurs occasionnels.
People who work in hospitality, in retail, in manufacturing, in community services, in childcare, in the farming industry as well.
La secrétaire du Conseil des syndicats, Sally McManus. Le libéral Josh Frydenberg s'est fait entendre à propos des constantes critiques de Tony Abbott à propos du gouvernement. Le ministre de l'Énergie a été plutôt cinglant quand ABC lui a demandé si l'apport de Tony Abbott était positif ou négatif.
Who's most encouraged by those comments? Is it the party members who want to see a continuation of the Liberal government? The answer is no. Is it my parliamentary colleagues who want to see them retain their own seats and the government stay in office? The answer is no. Is it the Australian people who want to see a government talk about how we're boosting funding for education and health, infrastructure, and the people with disabilities, as well as protecting their national security? The answer is no. Or is it Bill Shorten, the alternative Prime Minister? And he's the one who's benefiting most, unfortunately, from Tony Abbott's constant interventions.
Le ministre de l'Énergie, Josh Frydenberg. Un mot de sport pour terminer le journal. Le champion du monde de cyclisme sur route, Peter Sagan, a dit accepter sa disqualification du Tour de France, même s'il n'est pas d'accord. Un jury a déterminé que Sagan a contrevenu aux règles lorsqu'il est entré en collision avec Mark Cavendish, qui s'est brisé une omoplate dans la chute. Peter Sagan croit toutefois qu'il n'a rien fait de mal.
I can do. I can just accept the decision of the jury. But for sure, I am not agree with them because I think I didn't do something wrong. in the spring.
C'était le cycliste Peter Sagan. Jetons un coup d'œil à la météo avant de continuer de parler sport avec Jean-Noël Ducasse. À Perth aujourd'hui, c'est un maximum de 15 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 14. Hobart, 13. Canberra, 12. Sydney et Newcastle, 18 degrés. Wollongong, 17. Brisbane, 24. Cairns, 27. Et à Darwin, 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 6 juillet. La femme politique française Simone Veil et son époux reposeront au Panthéon. L'Australie pourrait envisager des sanctions économiques contre la Chine si le pays continue son commerce avec la Corée du Nord. Et de nouveaux problèmes techniques pour le site du Australian Taxation Office en pleine période d'impôt.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench